nous abordons un sujet difficile, mais à la fois merveilleux. La messe et la communion, il n'y a rien de plus grand sur la terre. C'est vraiment l'œuvre d'amour du bon Dieu qui est poussée jusqu'où cela est possible. Et c'est un mystère de foi, hein, comme nous disons dans les paroles de la consécration au précieux sang, Mysterium Fidei, mystère de foi. Donc, la messe et la communion, il ne faut pas chercher à voir ou à sentir les choses, ce n'est que par la foi que nous pouvons savoir ce que c'est. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord vous rappeler très rapidement les buts de la messe, pourquoi on offre, à quelle intention on offre la messe, et ensuite de vous commenter la messe, mais surtout l'offertoire et le canon et une partie de la communion. Faire ce commentaire liturgique de la messe. Donc, à quelle intention offre-t-on la messe? C'est les mêmes que pour la prière, c'est tout d'abord la louange, reconnaître, contempler, admirer, proclamer les perfections divines. Bien sûr. Donc la louange des perfections divines. Et à cela s'ajoute bien sûr l'adoration, c'est-à-dire, et c'est surtout cela, pour cela qu'on offre la messe, l'adoration, c'est-à-dire reconnaître notre entière dépendance à l'égard de Dieu. Comme je vous avais dit, Dieu existe par lui-même, sans avoir besoin d'un autre. Nous existons uniquement par Dieu, nous recevons de Dieu. Eh bien, reconnaître cette dépendance, c'est l'adoration. Et l'acte suprême d'adoration, c'est le sacrifice. On détruit quelque chose pour reconnaître que Dieu seul est le maître absolu de tout. C'est ça le sacrifice, c'est en quelque manière, d'une certaine manière, détruire quelque chose pour reconnaître que lui seul est le maître, et bien sûr, pour reconnaître que Dieu est le maître de notre vie, eh bien on lui offre la vie. Et comme Dieu ne voulait pas de sacrifice humain, eh bien, les hommes, enfin le peuple hébreu, avait reçu l'ordre de Dieu d'offrir des animaux. On transférait sur les animaux le sacrifice, donc l'offrande de la vie, pour reconnaître que notre vie, notre existence, vient de Dieu et qu'elle appartient totalement à Dieu. C'est ça le but du sacrifice. C'est l'acte suprême d'adoration. Deuxièmement, il y a l'action de grâce pour Dieu qui nous fait du bien. Donc, Dieu nous fait du bien comme créateur et comme rédempteur. Il y a ensuite la demande de tous les secours nécessaires pour faire notre salut éternel, bien sûr. Et ensuite, eh bien, l'autre, le quatrième, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Nous sommes faits pour être unis à Dieu. Comme dit saint Paul quelque part, nous sommes faits pour vivre en société avec Dieu le Père et son Fils, et donc aussi le Saint-Esprit. Et saint Augustin dit que nous devons nous soumettre à Dieu afin d'adhérer à Dieu en une sainte société. Donc l'union à Dieu, voilà le but de notre vie, l'union à Dieu. Bien, le péché a détruit cette union, alors on offre le sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu, pour rétablir cette union avec Dieu. Et pour rétablir cette union avec Dieu, bien, il faut l'expiation du péché, il faut la propitiation ou la satisfaction. Satisfaction, c'est-à-dire faire assez, suffisamment, pour que le péché soit compensé par quelque chose. Et donc, nous avons offensé Dieu, le péché déplaît souverainement à Dieu, eh bien il faut offrir à Dieu quelque chose qui lui plaît autant ou plus que le péché. Alors, l'équilibre se rétablit. On dédommage Dieu, si vous voulez, des offenses qu'on lui a faites. Alors, dans la messe, que nous offrons à Dieu, bien, c'est l'amour et l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Vous connaissez, je pense, ce passage que vous trouverez de toute façon dans la messe du Jeudi Saint, passage de Saint Paul. Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Bien, cette obéissance de Jésus-Christ est beaucoup plus agréable à Dieu que nos désobéissances lui ont déplu. Et cette obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient de son amour, satisfait pour toutes nos désobéissances qui se trouvent dans le péché. Donc c'est une satisfaction, c'est une propitiation, c'est pour nous rendre, redevenir agréables à Dieu. Et nous sommes donc réconciliés avec Dieu, remis en paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ce sacrifice que nous offrons donc à la messe. Je ne sais pas si vous avez remarqué la secrète, du 9e dimanche après la Pentecôte, donc c'est récent. Il me semble que c'est le 9e, je vais vous dire ça. Voilà, c'est ça, le 9e dimanche à la Pentecôte. Accordez-nous, Seigneur, de fréquenter dignement ces saints mystères, car chaque fois que se célèbre la commémoration de ce sacrifice, l'œuvre de notre rédemption s'accomplit. Donc le sacrifice de la messe, c'est l'œuvre de la rédemption. Donc c'est le sacrifice de la croix qui se continue pour sauver nos âmes, pour les racheter. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, hein. Quand on va à la messe, vous avez tous les mystères de la vie chrétienne. Dieu, bien sûr. Jésus-Christ est Dieu. Comme à la messe, c'est Jésus-Christ qui est présent. C'est Dieu qui est présent. Donc la Sainte Trinité. Jésus-Christ est le Fils, deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais là où il y a le Fils, il y a forcément le Père et le Saint-Esprit. On ne peut pas les séparer. Donc la Sainte Trinité y est tout entière présente. Il y a le mystère de l'incarnation, puisque c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, fait homme. Et il y a le mystère de la rédemption, sa mort sur la croix pour nous sauver, bien sûr, puisque la messe renouvelle le mystère de la rédemption. Et aussi nos fins dernières, puisque c'est pour nous arracher à l'enfer et nous conduire au ciel. Donc tous les principaux mystères de notre foi ne sont pas seulement évoqués, mais ils sont présents. Puisque est présent Jésus-Christ, donc la Sainte Trinité est présente, et le sacrifice de Jésus, le sacrifice de la croix, est présent sur l'autel, après la consécration. Donc, si vous voulez, vous avez, lorsque il y a sur l'autel le corps et le sang de Jésus-Christ, vous avez le sacrifice de Jésus-Christ, donc l'amour et l'adoration infinie, puisque Jésus est Dieu, donc c'est une valeur infinie, l'adoration infinie, l'amour infini, l'obéissance infiniment parfaite de Jésus-Christ qui sont offerts à Dieu pour réparer, pour satisfaire pour nos péchés. Et l'Église nous dit, la messe est offerte chaque jour pour les péchés que nous commettons chaque jour. C'est le Concile de Trente, ça. La messe est offerte chaque jour pour les péchés que nous commettons chaque jour. C'est vraiment l'œuvre de la rédemption qui continue à travers les siècles. Et c'est pourquoi le démon s'attaque à la messe, bien sûr, et au sacerdoce. Si vous voulez, aujourd'hui, surtout, cela nous est sensible, vous avez une quantité incroyable de péchés qui montent devant Dieu et qui offensent Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'on offre la messe, on offre quelque chose qui efface, qui compense toutes ces saletés qui montent devant Dieu. Au lieu du mépris de Dieu, on offre l'amour infini de Jésus-Christ. Au lieu de cette révolte contre Dieu, on offre l'obéissance infinie de Jésus-Christ. Au lieu de l'orgueil des hommes, on offre l'humilité de Jésus-Christ. Vous voyez, toutes ces choses qu'on offre et qui viennent de Jésus-Christ, qui sont infiniment agréables à Dieu et qui compensent, si vous voulez, qui rétablissent l'équilibre, si je peux essayer d'exprimer les choses comme ça. Compense toutes ces saletés, toutes ces méchancetés que les hommes font envers Dieu. Alors, donc, essayons maintenant d'expliquer un peu la messe, et donc nous allons dans la messe revenir un peu sur toutes ces choses-là. Donc la messe comprend deux parties, ce qu'on appelle la messe des catéchumènes, qui va du début jusqu'au credo inclus. Donc je pense que ça c'est quelque chose que vous connaissez, qui se trouve d'ailleurs dans tous les missels, la messe des catéchumènes. Alors, je ne vais pas expliquer cette partie parce que je n'aurai pas le temps, je n'ai pas le temps de tout faire. Quelles sont les deux orientations? Elles s'adressent à notre intelligence et à notre volonté. Cette partie de la messe nous rappelle ce que nous devons croire, donc elle ravive notre foi. L'épître, l'évangile, la prédication, le credo, nous rappelle ce que nous devons croire. Et deuxièmement, elle met dans nos cœurs les sentiments d'humilité, de contrition, mais aussi de confiance en la miséricorde. Donc elle nous purifie de nos péchés et réveille notre charité. Donc, s'adresse à notre foi pour la faire revivre, et elle s'adresse à notre charité pour la réveiller et nous purifier des péchés. C'est les deux aspects principaux de cette partie. Et ensuite, vous avez la deuxième partie qui est la messe proprement dite et qui elle-même est composée de trois parties. L'offrande du sacrifice, l'offertoire, le sacrifice, la réalisation du sacrifice, le canon, et la participation au sacrifice, la communion. Donc, la deuxième partie qui commence à l'offertoire et qui se termine à la fin de la messe est composé de l'offrande du sacrifice, l'offertoire, du sacrifice, le canon, et de la participation au sacrifice, la communion. Alors, je vais donc expliquer un petit peu l'offertoire. Le prêtre commence par l'hostie, et donc sur la patène, et il offre la patène avec l'hostie devant Dieu en disant cette prière: recevez au Père Saint et Dieu Tout-Puissant et Éternel cette hostie sans tâche que je vous offre, moi, votre indigne serviteur, à vous qui êtes mon Dieu vivant et véritable, pour mes péchés, mes offenses et négligences sans nombre, pour tous ceux qui sont ici présents, pour tous les chrétiens vivants et morts, qu'elles servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Donc, nous allons essayer dans l'offertoire de voir à qui on offre le sacrifice, ce qu'on offre, qui offre et pourquoi. Donc, à qui on offre, ce qu'on offre, qui offre et pourquoi. Donc, recevez Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. On offre le sacrifice à Dieu le Père. Et en cela, on imite Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale le soir du Jeudi Saint, où il s'adresse à Dieu son Père et il offre son sacrifice pour la sanctification des apôtres et pour notre sanctification. Donc, on offre le sacrifice à Dieu le Père. Alors, qu'est-ce qu'on offre ? Eh bien, recevez cette hostie sans tache immaculée. Alors, on offre, si vous voulez, le pain qui est blanc, symbole de la pureté. Mais si nous n'avions que le pain à offrir, comme dit le nouvel offertoire, si nous n'avions que le pain à offrir, ce n'est pas ça qui va sauver nos âmes. Ce n'est pas le pain qui va sauver nos âmes. Ce n'est pas le fruit du labeur et de la terre, du travail des hommes, je ne sais plus comment on dit. C'est cette partie humaine qui va sauver nos âmes et qui pourra plaire à Dieu plus ou autant que nos péchés lui déplaisent. Donc là, quand on dit hostie, sans tache immaculée, on désigne, le mot hostie signifie victime. Et la victime sans tache et immaculée, il n'y en a qu'une, c'est Jésus-Christ. Donc, on offre Jésus victime. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai victime absolument pure. Or, notre Seigneur s'est offert en victime pour nos péchés à Dieu dès son entrée dans le monde. Saint Paul dit ça dans l'Épître aux Hébreux, il cite d'ailleurs un psaume. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni holocauste, c'est-à-dire selon la loi de Moïse. C'est pourquoi vous m'avez formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire votre volonté. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Donc notre Seigneur s'était offert dès son entrée dans ce monde, et l'offertoire renouvelle cette offrande. Donc, on offre à Dieu le Père, on offre quoi ? On offre l'hostie immaculée, Jésus, victime de nos péchés, et qui offre ? Eh bien, on dit ensuite dans la prière que moi, votre indigne serviteur, donc c'est le prêtre, ministre de Jésus-Christ, qui offre le sacrifice. Donc, le rôle sacerdotal du prêtre est mis en évidence. Le prêtre est le médiateur, avec Jésus-Christ bien sûr, médiateur placé entre Dieu et les hommes pour réconcilier les hommes avec Dieu par l'offrande du sacrifice. Donc qui offre, c'est le prêtre. Alors, ici, c'est le prêtre. Ailleurs, il y aura une précision. Ensuite, pourquoi offre-t-on ? Bien, la prière continue, et vous voyez que ça fait la moitié de la prière, le motif pour lequel on offre. Que moi, votre indigne serviteur, je vous offre mes péchés, offenses et négligences sans nombre. Vous voyez que le prêtre offre, tous les prêtres, quels qu'ils soient, même si c'est le pape qui dit la messe, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre. Donc l'Église oblige les prêtres, s'ils réfléchissent un peu, à l'humilité. D'ailleurs, ça commence dès le début de la messe. Ils disent leur confiteur tout seul, d'abord, devant tout le monde. Et ensuite, donc, pour tous ceux qui sont ici présents, pour tous les chrétiens vivants et morts. Donc, on offre pour tous, pour tous les baptisés. Vivants ou morts, donc l'intention universelle de l'Église de faire du bien à tous les baptisés, donc à ceux qui sont sur la terre et à ceux qui sont au purgatoire, parce que ceux qui sont au ciel n'ont plus besoin de la messe, bien sûr. Et afin qu'elles servent à leur salut, à mon salut et au leur, pour la vie éternelle. Donc, vous voyez, on fait intervenir les péchés, pour les péchés, offenses et négligences sans nom, mais aussi, bien sûr, pour tous ceux qui assistent à la messe et pour tous ceux qui sont, pour tous les baptisés. Donc, on offre le sacrifice pour les péchés et pour obtenir la vie éternelle, pour le salut éternel. Donc, vous voyez la grande orientation, on offre à Dieu le Père, on offre quoi ? Jésus victime pour nos péchés, c'est le prêtre qui offre, et il offre dans le but d'obtenir le pardon des péchés et d'obtenir la vie éternelle, le salut éternel. Donc après, le prêtre va au coin de l'autel et il met le vin dans le calice et ensuite la goutte d'eau dans le vin. Et précision liturgique, le prêtre est obligé, sous peine de péché mortel, de mettre une goutte d'eau dans le calice. C'est dans les prescriptions, dans les rubriques. Et c'est l'enseignement commun. Donc le prêtre est obligé, sous peine de faute grave, de mettre cette goutte d'eau dans le vin. Et il dit en même temps cette prière au Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et qui l'avait restaurée d'une manière plus admirable encore, accordez-nous, par le mélange de cette eau et de ce vin, d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité. Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. Donc cette conclusion, d'ailleurs, est une affirmation du mystère de la Sainte Trinité. Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et l'avait restaurée. Vous avez, en quelques mots, toute l'histoire de l'humanité. Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable, c'est Adam et Ève créés dans la justice originelle, dans la grâce sanctifiante. Et l'avait restaurée. Ben, s'il y a besoin d'une restauration, c'est qu'il y a eu une certaine destruction avant. On restaure uniquement seulement ce qui est abîmé. Il faut être la logique des mots. Donc si restauration, c'est qu'il y avait besoin de réparer quelque chose. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? On le sait tous, la bêtise du péché originel et de nos propres péchés qui ont abîmé la nature humaine et qui nous ont fait perdre beaucoup de choses. Et comment cette restauration s'est faite ? Ben, d'une manière plus admirable encore, oui bien sûr, puisqu'il a fallu Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, pour faire cette réparation. Alors, bien sûr, c'est bien plus admirable que d'établir Adam et Ève, que de les créer avec la vie surnaturelle, bien sûr. Donc vous voyez, en quelques mots, on rappelle toute l'histoire d'humanité. Adam et Ève créés en état de grâce avec la vie surnaturelle et destinés à voir Dieu au ciel, à aller dans la béatitude éternelle, ce plan d'amour de Dieu est cassé par le péché, mais il est réparé par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ensuite on nous dit le but. Accordez-nous, par le mélange de cette eau et de ce vin, d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité. Donc, cette goutte d'eau versée dans le vin symbolise l'union de la nature humaine et de la nature divine en Jésus-Christ. Le vin représente la nature divine et l'eau la nature humaine. Donc l'eau mélangée au vin symbolise l'union de la nature humaine et de la nature divine en la personne de Jésus-Christ. Mais, donc ce qui est important, mais ça représente aussi, d'ailleurs selon le sens des mots, notre union à Dieu, l'union des baptisés à Jésus-Christ, à la vie divine. Nous avons la vie divine. Avoir part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité, donc avoir part à la divinité de Jésus-Christ. Cela rappelle que la grâce sanctifiante, comme le dit saint Pierre, est une participation de la vie divine. Et à chaque messe, on rappelle que par la grâce sanctifiante, nous participons à la vie divine. Et que c'est le but de notre vie. Et par suite, cette union symbolise aussi l'union de toutes nos vies au quotidien avec celle de Jésus-Christ, donc l'union de nos joies et de nos peines, de nos souffrances, unies au sacrifice de Jésus-Christ. On dit toujours la goutte d'eau, c'est le symbole de tous nos petits sacrifices qu'on offre à Jésus-Christ. Bien sûr, aussi, mais pas seulement. C'est le symbole de l'union de l'humain et du divin en Jésus-Christ, symbole de l'union de nous avec Dieu, nous sommes participants de la vie divine par la grâce sanctifiante, et aussi l'union de toutes nos vies terrestres avec le sacrifice de Jésus-Christ. Et là, nous abordons le mystère du corps mystique de l'Église. Vous savez que l'Église, corps mystique, est appelée corps mystique, c'est-à-dire que Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres de l'Église. L'Église est constituée comme un grand corps. Dans un corps, il y a la tête et puis il y a les membres. Eh bien, dans l'Église, la tête, c'est Jésus-Christ, et les membres, c'est nous, les baptisés. Eh bien, c'est toute l'Église qui s'offre en sacrifice. La tête, Jésus-Christ, et nous, avec la tête, par la médiation du sacerdoce. Ce qui va expliquer la suite. Ensuite, le prêtre prend le calice, il revient au milieu de l'autel, il offre ce calice à Dieu. Donc, nous offrons, Seigneur, le calice du salut, en suppliant votre bonté, de le faire monter comme un parfum agréable en présence de votre divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Donc, le calice du salut, donc toujours la même idée, le salut obtenu par le calice. Le calice du salut, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et vous savez que le mot calice signifie souvent une très grande épreuve. C'est un symbolisme qui est connu. Le calice signifie des épreuves. Et bien là, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé pour notre salut éternel. Mais avec ce sang de Jésus-Christ, il y a la goutte d'eau. Donc il y a nous aussi qui sommes offerts en sacrifice. Il y a donc notre part dans l'œuvre de la rédemption. Nous nous offrons nous-mêmes toutes nos peines, toutes nos souffrances, toutes nos épreuves. Nous les unissons à Jésus-Christ pour ne faire qu'un sacrifice, le sacrifice de toute l'Église. Donc à l'offertoire, on constitue et on offre le sacrifice de toute l'Église. Et je vais, donc dans ce qui est offert, on n'offre pas seulement Jésus-Christ, on offre aussi nous-mêmes. Tous nos efforts pour vivre en bon chrétien, tous les sacrifices nécessaires pour vivre en bon chrétien. C'est notre part dans l'œuvre du salut éternel. C'est normal quand même qu'on fasse quelque chose. Alors quand on dit, on supplie ensuite que ce sacrifice monte comme un parfum agréable devant Dieu. Ben oui, comprenez bien, ce sacrifice de Jésus-Christ est remis entre nos mains. Donc c'est nous qui l'offrons. Alors le sacrifice de Jésus est toujours agréable à Dieu. Seulement quand c'est nous qui le présentons, c'est plus la même chose. Est-ce qu'il va être agréable à Dieu ? S'il est présenté par des mains souillées par le péché, ben il ne sera pas agréable à Dieu. Mais donc, faut qu'il soit agréable à Dieu, il faut qu'il soit présenté par un cœur pur, bien sûr, un cœur aimant, un cœur qui aime Dieu. Alors, normalement, devant Dieu, on est toujours un peu tremblant. Est-ce qu'on est accepté de Dieu? Alors, cette idée, vous la retrouvez aussi dans le canon, dans certaines prières du canon. Donc, agréable odeur devant Dieu, ça veut dire que il faut que ce qu'on offre soit aussi agréable à Dieu que le parfum peut, pour nous, être agréable à respirer. C'est la comparaison qui nous fait comprendre. Et vous voyez qu'à la fin aussi, nous offrons pour notre salut et celui du monde entier. Donc, nos intentions de prière à la messe s'étendent non seulement à l'Église, aux baptisés, mais à toutes les âmes. Et Jésus pense à toutes les âmes en s'offrant un sacrifice. Comme le dit saint Jean dans sa première épître, Jésus est victime de propitiation pour nos péchés et ceux du monde entier. Et comme la messe continue l'œuvre de la rédemption, c'est vraiment pour le monde entier. Donc n'oublions pas ça, quand nous sommes à la messe, prions pour nous, mais aussi pour toutes les âmes, même celles qui ne sont pas baptisées. C'est source de grâce et de conversion. On peut dire que la messe est le paratonnerre du monde. La messe arrête les châtiments que les hommes méritent par leurs péchés. Donc, dans cette prière, à qui on offre? À Dieu, au Seigneur, ce qu'on offre, le calice du salut, donc le sang de Jésus, on l'offre pourquoi? Pour notre salut éternel et celui du monde entier. Et qui offre? Dans cette prière, nous disons, il est dit, nous vous offrons. Et là, c'est au pluriel. Alors, pourquoi? Alors, origine liturgique et historique, dans les premiers siècles, La messe basse n'existait quasiment pas, c'est l'évêque qui disait la messe. Il était toujours assisté de plusieurs ministres, en particulier le diacre. Et le diacre aidait l'évêque à soulever le calice et à lui offrir. Et le diacre disait en même temps que l'évêque la prière. Donc il disait au pluriel, nous vous offrons, bien sûr. Et c'est ce qui se passe toujours à la messe solennelle, avec diacre et sous-diacre. Le diacre met sa main sous le calice et avec le prêtre, dit en même temps que lui, nous vous offrons. Mais bien sûr, cette raison historique s'ajoute une autre raison plus profonde. La goutte d'eau versée dans le vin symbolise notre union à Jésus-Christ, par la grâce et par la charité. Ainsi unis à Jésus-Christ, nous lui sommes aussi unis dans l'offrande de son sacrifice. Donc c'est nous aussi qui offrons ce sacrifice. Et c'est nécessaire. Pour nos péchés, il faut que nous ayons quelque chose à offrir pour le pardon de nos péchés. Alors nous offrons nos sacrifices, oui, mais nos sacrifices ne prennent de valeur qu'unis à celui de Jésus-Christ. Dans toutes les oraisons, nous demandons quelque chose dans l'oraison et nous disons toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est toujours par lui que ce que nous faisons a une valeur. Donc là, nous vous offrons, c'est nous unis à Jésus-Christ qui offrons le sacrifice de Jésus-Christ. Si nous n'avions que nos seules prières et nos seuls sacrifices à offrir à Dieu, nous serions bien pauvres. Mais nous avons la possibilité d'offrir à Dieu quelque chose qui lui plaît infiniment. En nous unissant à Jésus-Christ, nous offrons à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ qui plaît infiniment à Dieu. Et c'est comme ça que nous effaçons nos péchés. Nous avons donc, en quelque sorte, l'Église a entre ses mains un sacrifice parfait d'une valeur infinie qui peut glorifier Dieu et opérer le salut de nos âmes et qui seul peut réparer et satisfaire pour nos péchés. Alors, nous l'offrons. C'est toute l'Église. La tête, Jésus-Christ, et puis nous, tous les membres de l'Église qui offrons ce sacrifice. Et donc tous les prêtres, tous les fidèles, par le prêtre, s'unissent à Jésus-Christ et offrent à Dieu un sacrifice parfait. Donc voyez, notre union au sacrifice de Jésus-Christ, il est double. Nos sacrifices, nos peines, nos souffrances, nos vies unies au sacrifice de Jésus-Christ, notre part dans le sacrifice. Et deuxième aspect de notre union au sacrifice, mais c'est nous qui offrons par le prêtre en union avec Jésus-Christ. Donc, double aspect de notre union à Jésus-Christ dans le sacrifice. Alors, on retrouve la même idée dans les deux dernières prières de l'offertoire. Je passe in spirito humilitatis, dans un esprit d'humilité et le cœur contrit. Ben oui, bien sûr, parce que qu'est-ce que nous sommes devant Dieu pour offrir le sacrifice de Jésus-Christ? Alors, on se dit, ben Seigneur, je m'humilie devant vous et j'ai un cœur contrit. C'est normal, et comme le bon Dieu ne repousse jamais le cœur humilié et contrit, comme il est dit dans le psaume 50, eh bien nous sommes sûrs dans ces dispositions d'âme que notre sacrifice sera accepté par Dieu. Donc ensuite, on demande au Saint-Esprit de venir sanctifier ce sacrifice. Venez sanctificateur, tout-puissant Dieu éternel, bénissez ce sacrifice préparé à la gloire de votre saint nom. Cette petite prière toute petite est importante. Donc le sanctificateur, c'est le Saint-Esprit. Donc on demande au Saint-Esprit de faire à l'autel ce qu'il a fait à la crèche. C'est bien par le Saint-Esprit que le mystère de l'incarnation s'est réalisé et que notre Seigneur s'est fait homme et repose sur la crèche. C'est par le Saint-Esprit que le mystère de l'incarnation s'est réalisé. Mais comme la messe, d'une certaine manière, continue le mystère de l'incarnation, ben on demande au Saint-Esprit de venir réaliser cela. Ce qui nous rappelle qu'à la messe, ben Jésus qui est présent sur les linges d'autel, c'est le même Jésus qui était présent sur les langes de la crèche. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait les deux. C'est pourquoi, à la messe, là, on prie le Saint-Esprit de venir faire la même chose. Cette interprétation, elle n'est pas de moi, bien sûr, mais elle est des pères de l'Église. Donc, là, de nouveau, on offre à la Sainte Trinité cette offrande, donc, en mémoire de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est toute la vie de Jésus-Christ qui est cause de notre salut. La mort de Jésus-Christ obtient le pardon de nos péchés, mais sa résurrection nous mérite notre résurrection et son ascension nous mérite notre montée au ciel. Donc, notre salut est opéré par la mort, mais aussi par la résurrection et l'ascension. Donc, nous offrons toute cette vie de Jésus-Christ pour notre salut. C'est pourquoi on fait ici, comme dans le canon, référence non seulement à la passion, mais aussi à la résurrection et à l'ascension. Puis après, on dit qu'on offre aussi en honneur de la Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste, des saints, parce que la messe est offerte bien sûr directement à Dieu, mais elle profite aussi à l'honneur des saints. On offre la messe en honneur des saints, parce que les saints glorifient Dieu. Donc il faut se dire qu'à la messe sont donc présents tous les saints et tous les anges du ciel. Et ensuite, le prêtre dit Orate fratres, donc priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, vous voyez, ici encore, on le dit, le prêtre dit mon sacrifice, mais qui est aussi le vôtre. C'est le nôtre, c'est celui de toute l'Église. Là, on distingue bien le prêtre des fidèles. le rôle sacerdotal, bien sûr, du prêtre. Mais le prêtre n'offre pas la messe tout seul, ni pour lui tout seul, c'est pour tous les fidèles. Et on indique bien dans la réponse la médiation. Donc que le Seigneur reçoive ce sacrifice par vos mains. C'est par la médiation du prêtre, par son intermédiaire, que ce sacrifice peut être offert à Dieu. Pour l'honneur et la gloire de Dieu, pour notre utilité et celle de toute l'Église, donc c'est toujours le même but. Bon. Alors ensuite, nous allons passer au canon. Alors je passe sur la préface parce que je ne peux pas tout faire. Et je vais donner le... Bon, simplement quelques mots sur le canon. Ce canon est inchangé depuis des siècles. Au moins, il remonte pratiquement au 4e, au 5e siècle, enfin, autant qu'on puisse le savoir. Alors, les dernières modifications qui ont été faites, une, sous Jean 23, qui a ajouté le nom de Joseph, de Saint Joseph au canon, et la précédente, c'est Saint Grégoire le Grand, à la fin du 6e siècle, qui a modifié un peu l'Enquigitur. Donc, Jean 23, donc dans les années 60, et sinon après, il faut aller au 6e siècle pour une petite modification. Alors, vous voyez la stabilité, l'immutabilité de cette prière. C'est extraordinaire de se dire que sur 15 siècles, on a dit la messe avec les mêmes prières. Au moins 15 siècles, si ce n'est davantage. Alors, quel est le sens général du canon et sa différence avec l'offertoire? Je m'en tiendrai là pour le canon, le sens général, puis après je viendrai aux paroles de la consécration. Donc Jésus-Christ est notre grand prêtre, comme dit saint Paul, compatissant et intercédant sans cesse pour nous. Il s'est sacrifié sur la croix pour que l'Église soit pure, sainte et immaculée, c'est-à-dire que nos âmes soient pures, saintes et immaculées. Donc par son sacrifice, il a acquis des mérites, un trésor de grâce qu'il faut appliquer à nos âmes. Il a acquis un trésor de grâce qu'il faut communiquer à toutes les âmes. C'est ce qu'on appelle les fruits de la messe. Donc pendant le canon, bien sûr, on supplie Dieu d'accepter notre sacrifice, toujours ce sentiment d'humilité devant Dieu, et d'en répandre les fruits sur toute l'Église. Alors si vous voulez, l'image du canon, c'est l'image d'un pélican qui nourrit de son propre sang ses petits. Vous savez que le pélican, lorsqu'il n'a plus de nourriture, bien perce son ventre pour en tirer le sang et en nourrir ses petits. Eh bien, c'est une image d'ailleurs qu'on trouve dans certaines représentations de l'Eucharistie. Donc Jésus est ce pélican qui prend son sang pour nourrir toutes nos âmes. Donc vous avez Jésus-Christ au centre, Jésus-Christ en croix au centre du canon, et de part et d'autre de Jésus-Christ, donc de part et d'autre des paroles de la consécration, vous avez toute l'Église qui est là pour recevoir les grâces qui proviennent du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, vous voyez cette image. La croix de Jésus, c'est les paroles de la consécration. Et de part et d'autre, vous avez toute l'Église, les trois parties de l'Église, qui sont là pour s'associer ou recevoir les grâces du salut. C'est pour ça que je prends l'image du pélican. Vous avez le pélican, Jésus-Christ, puis toute l'Église, alors l'Église militante de la terre, l'Église souffrante du purgatoire, l'Église triomphante du ciel, sont là autour de Jésus-Christ. Pour participer, recevoir les fruits du sacrifice. Donc c'est l'application des mérites de la croix à toutes les âmes. Donc vous l'avez au début, on l'offre à l'Église militante. Et on prie d'abord pour qui? Ben, pour toute l'Église, nous l'offrons tout d'abord pour votre Sainte Église catholique, afin que vous daigniez lui donner la paix, la protéger, assurer son unité, la gouverner à travers le monde entier, et avec elle, donc, le pape, les évêques, tous ceux qui font profession de la vraie foi catholique et apostolique. Ensuite, donc ça c'est toute la hiérarchie de l'Église. Ensuite, on prie pour l'Église toujours, mais pour les membres de l'Église, le memento des vivants, donc les membres vivants sur l'Église, l'Église militante, hein, l'Église de la Terre, c'est l'Église militante. Donc là, maintenant, ce sont les baptisés. Souvenez-vous, Seigneur, de vos serviteurs, de vos servantes et de tous ceux qui sont ici présents, dont vous connaissez l'attachement et la fidélité dans la foi, pour qui nous vous offrons ce sacrifice de louange, ou qui vous l'offrent eux-mêmes, tant pour eux que pour les leurs. Donc, la messe est offerte pour ceux qui sont présents, et aussi pour ceux pour qui on veut prier, lorsqu'on est à la messe. Pour ceux qui sont là, et aussi pour les leurs. Donc, pour tous ceux qui nous sont chers, à nous qui sommes présents à la messe. Et on l'offre aussi pour l'Église souffrante. Alors là, c'est le memento des défunts qui est après le canon. Vous connaissez ça, donc, je pense. Vous avez après le canon, après la consécration, pardon, le memento des défunts. Donc, souvenez-vous de vos seigneurs, de vos serviteurs, de vos servantes qui nous ont précédés, marqués du sceau de la foi, qui dorment du sommeil de la paix. Donc, on pense aussi à eux. Donc là, on a vu l'Église de la Terre, l'Église militante, avec sa hiérarchie, et puis les fidèles. Ensuite, nous avons l'Église souffrante, donc là, c'est après la consécration, tous ceux du purgatoire. Mais il y a l'Église triomphante, tous ceux qui sont au ciel, la Sainte Vierge et tous les saints. Et vous savez que nous pouvons obtenir par les mérites des saints des grâces. Donc, là, on va invoquer l'intercession des saints, leurs mérites, pour obtenir des grâces. Et c'est pourquoi on dit le communicantes, unis dans une même communion, nous sommes unis à ceux du ciel. N'oublions pas que nous sommes unis à ceux du ciel. Et vénérant la mémoire, premièrement, de la Vierge Marie, ensuite de Saint Joseph, donc des saints martyrs, des saints apôtres, les martyrs, donc ceux qui ont fondé l'Église, et puis d'autres saints martyrs. Donc, accordez-nous par leur mérite et leur prière d'être assurés en toute chose du secours de votre protection. Donc, on leur demande leur aide, particulièrement pour nous aider à bien suivre la messe. Donc, ce communicantes change suivant l'époque liturgique, on rajoute une petite précision. Bon, ça c'est pas... Ensuite, vous avez l'enquisitour. Donc, vous savez que le prêtre, à ce moment-là, met ses mains au-dessus du calice et de l'hostie, renouvelant ainsi le geste que dans l'Ancien Testament le prêtre faisait en mettant ses mains au-dessus d'un bouc, et ça voulait dire qu'il chargeait ce bouc de tous les péchés du peuple, et ce bouc on l'envoyait mourir dans une vallée à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Et bien donc là, ça signifie que Jésus est chargé de tous nos péchés et qu'il va mourir pour l'expiation de tous nos péchés. Et donc là, on renouvelle encore le sens de la messe, que nous soyons arrachés à la damnation éternelle et comptés au nombre des élus du ciel. Alors, avant de venir à la consécration, je continue un peu les prières qui sont autour, puisque je vous dis qu'on applique les mérites du sacrifice à toutes les âmes. Alors, à qui encore on va obtenir ou appliquer? Donc vous avez d'abord le supplices. Donc nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant, de commander que ces offrandes soient portées par les mains de votre saint ange sur votre autel sublime en présence de votre divine majesté, afin que nous tous qui participerons au sacrifice de cet autel en recevant le corps et le sang de Jésus-Christ, nous soyons comblés de grâce et de bénédiction. Donc on prie pour ceux qui vont communier, pour qu'ils soient bien disposés à la communion et qu'ils en reçoivent de grands fruits. La messe est un peu une circulation entre le ciel et la terre. On offre à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ, donc l'adoration parfaite, la propitiation pour nos péchés, mais on demande aussi que Jésus-Christ fasse descendre du ciel vers la terre les grâces de sanctification. Donc, de la terre vers le ciel, glorifier Dieu, réparer nos péchés, du ciel vers la terre, les grâces qui sanctifient nos âmes. Et là, c'est ce qu'on demande pour tous ceux qui vont communier. Ensuite, donc, le memento des morts, et après, on prie encore pour tous ceux qui sont là, le nobis quoque peccatoribus, donc le prêtre se frappe la poitrine. À nous aussi, vos serviteurs pécheurs, qui mettons notre espoir en la multitude de vos miséricordes, daignez donner part à votre héritage dans la société des saints, non en pesant nos mérites, mais en nous accordant votre pardon. Vous voyez toujours cette humilité, on cherche le pardon de Dieu. Donc, Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et ses brebis sont serrées, groupées autour de lui, et il nous donne sa vie par sa croix. Voilà le sens, l'application des mérites de la croix à toute l'Église. Et avec toute l'Église, c'est vraiment la communion des saints. Vous avez toute l'Église, l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante qui sont autour du sacrifice de Jésus-Christ dans cette grande communion qui nous unit tous. Alors bien sûr, vous avez... Donc, qu'est-ce qu'on a fait à l'offertoire? On a préparé le sacrifice et on l'a offert en disant pourquoi. Et pendant le canon, ben, on agit. On fait le sacrifice et on l'applique aux âmes. Donc à l'offertoire, on le prépare, on dit pourquoi, et au canon, on le fait. On le réalise. Vous voyez cette différence. Parce que s'il n'y avait pas l'offertoire, bien le sacrifice ne serait pas offert. S'il n'est pas offert, bien il ne sert à rien. Je vous pense cette comparaison. C'est important pour la nouvelle messe, parce que c'est un des problèmes aussi du nouvel offertoire. Si un enfant veut faire un cadeau à son père, et qu'il a peur de son père, donc il fait le cadeau, puis il va le déposer dans le bureau, puis il s'en va. Mais il a bien mis le cadeau devant le père, mais il ne l'a pas offert. Qu'est-ce que dit le père? Ben, il dit à quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Il faut que l'enfant arrive avec son cadeau et dise, voilà, papa, je vous offre ça. Alors, il y a le geste d'offrande. Mais s'il n'y a pas l'offrande, ben, on ne sait pas pourquoi. Donc, vous pouvez très bien avoir la consécration, qu'elle soit, qui est validité, donc qui est vraiment le corps et le sang de Jésus présent, donc son fils présent, mais s'il n'est pas offert, ben il n'est pas appliqué à toutes nos âmes, il n'est pas offert, on n'a pas dit pourquoi, on n'a pas dit ce qu'on voulait. Alors il est là, mais il ne sert à rien. Est-ce que vous vraiment cette offrande à Dieu en disant pourquoi et en disant ce qu'on désire? Et c'est ça que fait l'offertoire. Donc il y a la consécration, alors c'est bien sûr, c'est le moment le plus sublime, le plus extraordinaire. Qu'on ne peut pas expliquer beaucoup, hein, l'Église, vous remarquerez d'ailleurs, ne reprend pas exactement les paroles de l'Écriture sainte. Ceci parce que l'Église donne un sens aux paroles de l'Écriture sainte, donc les modifications qu'elle fait, les paroles qui sont mises dans la liturgie ont pour but de donner le sens précis aux paroles de la consécration, ce qui fait que ce n'est pas exactement l'Écriture sainte. Mais c'est l'Église qui interprète et donne son sens véritable par les précisions qu'elle ajoute, par les gestes qu'elle demande au prêtre de faire. Pour aider notre foi à croire ce mystère. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rappelle d'abord ce qui s'est passé à la dernière scène. Donc il y a un petit récit historique très bref de ce que Jésus a fait à la dernière scène. De même, celui-ci, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les cieux au ciel devant vous, ô Dieu, son Père Tout-Puissant, vous rendit grâce et bénit ce pain, le rompit, le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Donc on redit les paroles de Jésus-Christ, et le prêtre d'ailleurs refait à peu près les gestes de Jésus-Christ, c'est vraiment la partie historique, mais arrivé à prenez et mangez-en tous, alors le prêtre s'arrête, change de position, il met ses coudes sur l'autel, l'Église lui dit de prononcer avec attention, dévotion et application les paroles qui suivent. Et ces paroles dans le missel ne sont pas écrites de la même manière qu'au-dessus, que le récit. Elles sont, si vous regardez un missel d'autel, vous avez le récit de la scène et après écrit en gros les paroles de la consécration. Or souvent vos missels ne respectent pas cette typographie. Les paroles de la consécration sont souvent mises dans vos missels, soit dans le latin, soit dans le français, sur le même plan que les paroles du récit. C'est fréquent. C'est un peu ennuyeux, un peu maladroit. Alors que dans le missel d'autel, la différence est vraiment très, très nette. Donc on est obligé, le prêtre est obligé de s'arrêter, de changer de position, ce qui l'entraîne à prononcer les paroles d'une manière différente de ce qu'il a dit avant. Donc arrivé là, il se recueille pendant quelques instants, et il dit, ceci est mon corps. Alors là, c'est plus lui qui parle, c'est Jésus-Christ, puisque ceci est mon corps, c'est pas le corps du prêtre, mais c'est le corps de Jésus-Christ qui se trouve présent. Donc c'est Jésus qui parle à travers lui. Et se réalise bien quelque chose d'extraordinaire, c'est que ceci, ce que j'ai dans les doigts, qui vous paraît du pain et qui est du pain avant la consécration, et après la consécration, ça vous paraît toujours du pain, mais ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus-Christ. Ceci est mon corps. C'est les paroles de Jésus-Christ, ce que Jésus dit est vrai et se réalise, parce qu'il est Dieu. Donc ce qu'il dit est vrai et ce qu'il dit se réalise. Sa parole est toute puissante. Sa parole est créatrice. Dans la Genèse, Dieu dit faisons le soleil, et alors le soleil est fait. Il suffit que Dieu dise une parole et puis les choses sont. Là, c'est la même chose, c'est une parole divine, elle est dite, et alors, ce qui est dit est fait. Ceci est mon corps, ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus-Christ. Oui, vous me direz, on ne comprend rien, on ne voit rien. Oh oui, c'est sûr. Bien sûr. C'est un mystère de foi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? La seule chose qu'on peut dire... La seule explication, c'est l'amour du bon Dieu qui a fait ça. C'est l'amour de Dieu qui est allé jusque-là. Se rendre présent et présent dans son sacrifice. Puisque la consécration du pain vous met le corps de Jésus d'un côté, la consécration du vin vous met le sang de Jésus d'un côté. Donc vous avez sur l'autel la séparation sacramentelle du corps et du sang. Et la séparation du corps et du sang, ça signifie quoi? Ça signifie la mort. Donc la mort est signifiée et rendue présente sur l'autel. Sous les apparences, par l'intermédiaire du sacrement. C'est une réalité sacramentelle. C'est un mystère, alors, difficile à cerner. Mais... la force des paroles de la consécration vous met le corps d'un côté, le sang de l'autre. Mettre l'un et l'autre d'un côté, ça signifie la mort, donc la mort de Jésus rendue présente sur l'autel et donc tout le sacrifice de Jésus-Christ. Et vous l'avez jusqu'à la communion. Donc jusqu'à la communion, vous avez le sacrifice de Jésus-Christ, dont vous avez l'amour infini et l'obéissance infinie de Jésus offert à Dieu. Infini parce que Jésus est Dieu. C'est vraiment l'amour du bon Dieu qui a fait ça. Déjà à l'incarnation, Dieu qui se fait homme. Mais alors là, non seulement la divinité est cachée derrière l'humanité, mais même l'humanité est cachée derrière les espèces, les apparences du pain et du vin. Tout est caché. Mystère de notre foi. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Après, c'est méditer. Et il est bien dit dans les paroles de la consécration du précieux sang que c'est offert pour la rémission de nos péchés. Donc c'est vraiment le sacrifice de propitiation pour nos péchés. Alors ça s'appelle la transsubstantiation. Il y a un changement de substance. Vous n'avez plus du pain, mais vous avez le corps de Jésus-Christ. Donc les apparences extérieures restent les mêmes. Vous avez ce qui ressemble à du pain. Donc c'est la même forme, la même couleur, la même épaisseur, le même poids, le même goût. Tout ça qui sont les apparences du pain. Ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le goût. Ce n'est pas le poids qui fait le pain. Parce que d'un morceau de pain à l'autre, toutes ces choses-là changent. Pourtant, vous dites toujours c'est du pain. Vous avez des pains de différentes couleurs, de différents goûts, de différentes duretés, de différents poids. Enfin bon. Puis quand vous coupez en morceaux, c'est toujours du pain. Et c'est, donc c'est plus le même volume, plus le même poids, mais c'est toujours du pain. Donc toutes ces apparences-là ne changent pas. Mais ce qui est caché dessous, la substance du pain disparaît et c'est la substance du corps de Jésus-Christ qui prend la place. Alors bien sûr, c'est tout à fait normal, c'est même dans, ça exige la toute-puissance de Dieu, que ce soit possible, même difficile à imaginer, mais c'est comme ça. C'est le corps de Jésus-Christ. Et avec le corps de Jésus-Christ, comme Jésus au ciel, il est dans sa gloire. Et on ne peut pas séparer au ciel le corps du sang, ni de l'âme, ni de la divinité. Eh bien, vous avez le corps, le sang, l'âme et la divinité tout entière sous les espèces du pain et du vin. C'est pourquoi on adore l'hostie, on l'adore parce que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et ce qui explique que quand on est dans une église où il y a le Saint-Sacrement, eh bien, on ne se tient pas n'importe comment. C'est la tenue extérieure, l'habillement, tout doit être en relation avec ça. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne fait pas n'importe quoi? Enfin, tout est en relation avec ça. Donc, après, il y a la communion. Alors, entre le canon et la communion, vous avez le Notre Père qui résume tout. Vous pourrez réfléchir, mais le Notre Père résume tout ce que nous avons dit. Que votre nom soit sanctifié, nous cherchons la gloire de Dieu. Puis après, que notre pain quotidien nous soit donné, cette pain quotidien, c'est d'abord le pain de l'âme, et le pain de l'âme, c'est d'abord l'Eucharistie. Donc le souhait de Jésus et de l'Église, c'est que nous communions tous les jours. Et après, le pardon de nos péchés, bien sûr. Ensuite, vous avez le Pax Dominis et Semper Vobiscum, donc la paix du Seigneur soit avec vous. Ensuite, l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, qui nous donne la paix. Donc vous voyez qu'à plusieurs reprises, et ensuite aussi encore la prière qui suit, Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ne regardez pas mes péchés. Donc on demande dans toutes ces prières, la paix. Quelle est cette paix? C'est la paix de notre âme avec Dieu. Et comment nous a-t-elle été obtenue? Par le sacrifice de Jésus-Christ. mais on la redemande encore juste avant la communion, qu'il n'y a rien en nous qui nous mette un peu en guerre avec le bon Dieu, c'est-à-dire pas de péché, bien sûr. Donc encore là, on demande au bon Dieu d'effacer nos péchés. Il faut être en paix avec Dieu pour aller communier, mais en paix aussi avec le prochain. Alors comme dit notre Seigneur, si ton frère a quelque chose contre toi, eh bien avant d'offrir, de faire ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il faut être en paix avec le prochain. Alors ça, c'est un reproche qu'on fait souvent. Qu'est-ce que c'est que ces catholiques de la tradition? Ils se disent plein de charité et tout, puis ils se disputent tout le temps. Eh oui, alors ça, ça va pas. C'est un très mauvais exemple. C'est contraire à la messe. Ils communient, puis après ils disputent. Alors quel sens donnent-ils à leur communion? Bien sûr. Hein, c'est le sacrement de la paix, le sacrement de l'unité. Voilà, le Concile de Trente dit que l'Eucharistie est le signe de l'unité, le lien de la charité, le symbole de la concorde. Donc il faut vraiment la charité et les efforts nécessaires, donc le renoncement pour être en charité et en paix avec les autres. Ça fait partie de la préparation à la communion. Hein. Donc, en quelques mots, excusez-moi, je déborde un peu, mais... difficile. Préparation à la communion, vous avez trois prières, donc alors la première sur la paix, l'autre qui résume un peu l'œuvre de la rédemption en nous, et on supplie Dieu de ne jamais séparer de lui. Donc l'union à Jésus-Christ, il faut rester attaché à ses commandements, rester attaché à sa loi. Donc voilà la l'un des buts de la communion, mais aussi ce qui peut nous aider à nous préparer. Protection contre les ennemis du corps et de l'âme, voilà aussi ce qu'on peut demander dans la communion. Un remède contre les blessures du péché, bien sûr, hein, c'est ce qu'on dit dans la troisième prière de préparation que le prêtre dit, que j'ose recevoir malgré mon indignité, ne tourne pas à mon jugement et à ma condamnation, mais par votre bonté, soit une protection pour l'âme et le corps et un remède. Un remède pour les blessures du péché et puis bien sûr un gage de la vie éternelle. Cela nous prépare à la vie éternelle. Donc comment se préparer? Bien par la foi au grand mystère de la présence réelle et du sacrifice. Par la générosité à offrir tous nos sacrifices et nos efforts pour devenir meilleurs. Et qu'on offre à l'offertoire. La foi, donc, et puis la confiance en la miséricorde du bon Dieu, le désir de recevoir Jésus-Christ, cette faim et cette soif de Jésus-Christ, puisque sans lui, nous ne pouvons rien. Puis, donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des petites prières préparatoires, comme on en trouve dans les missels. Une fois qu'on est bien habitué, on peut s'en passer, mais il est bon de les utiliser. Et après la communion, bien rester quelques instants en silence. Dieu est là, Jésus est là. Ben, ce qui est naturel, c'est Seigneur Jésus, je crois en vous, je vous adore, je vous aime, je veux vous aimer, je vous promets de faire des efforts pour vous aimer davantage, mais Seigneur, aidez-moi, donc agissez en moi. Ayons foi en cette action de Dieu, cette action divine de Jésus-Christ en nous. Vous savez, cette foi, une fois notre Seigneur est appelé pour aller guérir, aller ressusciter ou guérir je ne sais plus quel enfant, et il part avec les disciples et il y a toute une foule. Et il y a une femme qui s'approche et qui se dit, si je touche simplement son manteau, je serai guéri. Ça faisait des années qu'elle cherchait à guérir auprès de médecins, puis elle n'y arrivait jamais. Et elle touche son manteau, le manteau de Jésus-Christ, elle est guérie. Et notre Seigneur se retourne et dit, qui m'a touché? Alors les apôtres lui disent, Seigneur, quand même, avec toute la foule qui vous presse de tous les côtés, vous demandez qui vous a touché. Et le Seigneur dit, j'ai senti une force qui sortait de moi. La force de l'action divine qui a guéri cette femme. Ben, quand Jésus est en nous, il faut demander la même chose. Mais ça demande notre coopération, bien sûr. Donc nos résolutions, nos efforts, nos sacrifices pour mieux vivre en union et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà, je m'arrête là. Je vous invite à lire, vous avez des petits livres qui expliquent la messe. Vous en avez un de Don Guéranger. Vous en avez un aussi de Saint Léonard de Port-Maurice. Et vous avez un autre de le Père Lebrun, qui est lui beaucoup plus gros, qui font toute l'explication détaillée, avec les parties historiques, liturgiques, et puis aussi les parties plus spirituelles.